OK. Alors, mettons un scénario où les hôpitaux débordent parce qu'il y a une deuxième vague de COVID, OK? Il existerait un protocole dans le système de santé, un protocole d'accès aux respirateurs qui ferait passer les handicapés, les personnes handicapées et les personnes vulnérables, par exemple les personnes autistes ou les personnes qui ont une trisomie, après les autres citoyens. C'est ce que soutient la députée libérale Jennifer Macaroni qui s'en est ouvert, qui a dit ceci à l'animateur, notre collègue Paul Arcand ce matin.
Puis je ne dis pas que j'ai pas énormément de respect pour l'équipe médicale qui seront sur le terrain quand ils vont faire ce choix-là, mais est-ce qu'il faut vraiment référer à un protocole de triage qui dit que les vies des personnes handicapées vont moins que les autres personnes? Il faut avoir des discussions, puis il faut que ça soit individualisé cas par cas. Si je suis inquiète, c'est parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont inquiètes, il y a beaucoup de familles qui sont inquiètes. Ça laisse la place à l'interprétation, qu'ils publient leurs documents, puis qu'on aura un débat pour en discuter.
Alors, je vous rappelle, Jennifer Macaroni est maman de deux enfants autistes. Donc, elle le mène, dit-elle, pour d'autres groupes. Mais cette bataille, elle l'amène aussi pour ses enfants. Je pense qu'on peut dire ça. Alors, pour en avoir le cœur net, honnêtement, là, pour savoir c'est quoi vraiment la réalité, il n'y a rien de mieux que de se tourner vers quelqu'un qui devra éventuellement l'appliquer, la fameuse directive, comme François Marquis, médecin intensiviste et interniste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, François.
Bonjour.
Est-ce que c'est vrai, ça?
Bien, en fait, c'est vrai puis c'est pas vrai. Ça. Ce qui est vrai, c'est qu'il existe vraiment un document qu'on appelle le document de triage avancé. Ce document-là existe. On n'est même pas proche de n'en avoir de besoin. OK? Ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, c'est clairement, moi, j'ai pas lu le même document parce que le document que moi, j'ai lu, qui est disponible sur Internet, ce document-là, c'était dessus, un, que c'est pas des décisions à la légère, que deux, c'est fait par un comité de gens compétents, que trois, ça doit être amorcé par le ministère dans des conditions précises, que ça doit être utilisé dans le moins d'instances possible et seulement quand le Québec est plus qu'à genoux. Et là-dedans, il n'y a pas de mention de personnes handicapées, moi, dans le document que j'ai lu. Ce qu'on regarde, c'est qu'habituellement, aux soins intensifs, on donne la priorité aux gens les plus malades, alors que ces protocoles-là visent à donner la priorité aux soins intensifs aux gens qui ont le plus de chances de guérir et de retourner à une vie normale et autonome. Et là-dedans, dans le document que moi j'ai lu, il n'y a pas de sélection qui est faite sur la base d'un handicap, d'une couleur, d'une religion, rien de ça. C'est purement sur le fait de à maladie égale, parce que c'est pas juste pour les gens de pandémie, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, si le système est complètement rempli par une pandémie, une catastrophe, des martiens qui attaquent, ben à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que tous les gens qui ont besoin d'un accès aux soins intensifs vont être triés, et donc on va essentiellement regarder qui a le plus de chances de s'en sortir, et à partir de là, le comité prend une décision. Et ça, c'est vraiment justement pour protéger la population, que ça soit pas des décisions à l'emporte-pièce faites par une personne dans un recoin selon ses propres valeurs. Et je pense, moi, que ce document-là est en fait tout à fait une bonne base de négociation. Puis si on veut ouvrir le débat, qu'on ouvre le débat, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, j'ai rien lu là-dedans qui dit que si tu as un handicap mental, tu vas passer au couperet puis que tu n'auras pas accès à rien, là. Et je serais juste curieux de voir quelle version on a lu, parce que moi, c'est clairement pas le document que j'ai lu. Là.
OK, le document, je l'ai sous les yeux, c'est intitulé « Triage pour l'accès aux soins intensifs, adultes et pédiatriques », donc ça concerne les enfants, « et l'allocation des ressources telles que les respirateurs en situation extrême de pandémie ». Donc, ça a été produit dans le contexte de la COVID. Dans le fond, ça a été produit dans le contexte où on appréhendait un scénario à l'italienne. On sait qu'en Italie, ils ont été à un moment donné complètement débordés. Ils ont dû choisir à qui ils donnaient les respirateurs.
Exactement. Et ça, c'est ce qu'on ne voulait pas vivre ici. Et je pense que c'est une excellente chose que de ne pas avoir à improviser un document comme ça. Et je veux rassurer les gens que même au pire de la crise qu'on a eue, on ne s'est jamais même approché de ce protocole-là. Parce que pour l'activer, il faudrait que tous les hôpitaux du Québec soient débordés. Et même ceux de Montréal qui ont été les plus touchés, de façon individuelle. Il n'y aurait pas été question qu'un hôpital dise, ben moi, je suis débordé, je vais appliquer ça. C'est pour ça qu'on avait mis des systèmes en place pour bouger des patients, échanger des patients, transporter des patients pour que tout le monde ait un accès égal aux soins. Et si on avait été obligé, malgré ça, de faire ça à tout le Québec puis de l'envoyer dans toutes les régions et que malgré ça, tous les respirateurs auraient été pris,
oui.
C'est à ce moment-là qu'on aurait envisagé ce protocole-là. Et si un jour on a besoin de ce protocole-là, il sera là et oui, qu'on en discute à tête reposée pendant qu'il ne se passe rien. On ne peut pas être contre la vertu.
D'accord.
Mais moi, dans ce document-là, je ne vois rien qui vise un groupe de patients vulnérables en particulier.
OK. C'est très clair, François. Maintenant, on s'entend là que par moment, il arrive des moments où tu es obligé de décider de faire des choix difficiles.
Effectivement. Et ça, c'est dans la nature même des soins intensifs, de la médecine d'urgence, ce qu'on appelle la médecine de troisième ligne aussi. À un moment donné, il faut que tu sois capable de regarder un patient et sa famille et de lui dire, vous savez, c'est une chose qui est triste, mais il n'y a absolument rien qu'on peut faire pour ça. Et ça serait malhonnête que de vous donner l'espérance d'un ventilateur ou de vous donner l'espérance d'une réanimation cardiaque. Et ça, nous, on doit le faire au quotidien. Et c'est une discussion avec le patient et la famille. Et 99 % du temps, ça se passe très bien. Très bien ne voulant pas dire que c'est facile ou que c'est agréable, mais les gens comprennent, font partie de la discussion. Et même le document parle encore de ça, de l'importance d'impliquer les familles, d'impliquer les patients. Et pour moi, c'est juste une prolongation et un peu amené à l'extrême des choses qu'on fait relativement quotidiennement.
OK. Juste avant de se laisser, le gouvernement a décidé de prioriser un certain nombre de projets d'infrastructure hier, 202 projets, donc des maisons des aînés, des projets de tramway, des bouts d'autoroute comme la 19, puis des projets aussi dans les hôpitaux. Et le grand projet de modernisation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où tu pratiques, n'est pas dans les projets priorisés. Je te donne une minute pour nous en parler et pour nous dire pourquoi ça aurait dû être priorisé.
Bien, le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, là, simplement, c'est un dixième des Québécois qui sont touchés par cet hôpital-là. Le CIUS tombe en ruine, tout le monde le sait. On avait un projet qui était déjà entamé, qui va prendre un retard phénoménal à cause de la pandémie. Et là, ça serait le temps là, de mettre les bouchées doubles là-dessus pour créer un hôpital qu'on a besoin de ne pas prendre de retard pour pouvoir desservir la population, une des populations les plus vulnérables du Québec.
L'Est de Montréal.
Oui, puis du Québec aussi.
Oui.
Et accessoirement à ça, je veux dire, nous autres, on a été là, malgré l'état de notre hôpital et du CIUS, on a tout fait. On a répondu à l'appel de la population, on les a soignés avec le COVID, on est un des hôpitaux les plus submergés de COVID. On a été là, et là, quand ça serait le temps de dire, OK, wow, vous aviez déjà un projet qui était accepté, c'est le temps de mettre de l'énergie puis d'essayer d'y arriver avant le 8 à 10 ans qu'on s'était donné. Je pense que c'est une opportunité qui est un peu manquée et qu'on devrait, dans le but d'améliorer la qualité des services de soins dans une population vulnérable, je pense que ça qualifie assez vite pour être en haut de la liste.
On va voir si le message aura été entendu par le gouvernement, en particulier par Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor. François Marquis, médecin intensiviste au CIUS, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, CIUS de l'Est. Merci beaucoup, François.
Merci. Bye.
Bye.